The French have a very different relationship with work than the rest of us, right? In that they don't give a shit about it. Which honestly I found inspiring. Yeah. I feel like a lot of us have become a little too attached to our work, you know? We identify with our work. Have you ever asked somebody just randomly, be like, hey, tell me about yourself? And they'll be like, well, I'm an architect. And tell me about yourself. Well, you know, I own a hair salon. And tell me about yourself. And people will tell you about what they do. You know, it's become the thing that people focus on. The French don't do that. You'll never meet a French person who does it. You go up to a French person, you'd be like, excuse me, what do you do? Be like, oh, me, I go for walks with my friends and... You know, I like to, eat good food. And you're like, no. What do you do for a living? It's like, ah, for a living. Pardon. Okay, for a living. Okay, no, I breathe. And, of course, I have to make love, you know.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million Francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popo Richaud, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Pot Pourri sur CUT 89,5 FM. écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Pourquoi les médias français sont-ils tombés si bas au point de ne plus informer, mais de manipuler? Pourquoi 90% des chaînes de télé, radio et journaux appartiennent aujourd'hui à seulement 9 milliardaires? Qui décide vraiment de ce qu'on regarde, de ce qu'on croit et de ce qu'on doit penser? Pourquoi les chaînes publiques, censées garantir une information libre et neutre, sont aujourd'hui vidées de leur sens, pendant que les chaînes privées explosent et imposent leur vision du monde? Pourquoi chaque jour on voit les mêmes invités, les mêmes experts, répéter les mêmes discours? Pourquoi les sujets qui dérangent disparaissent des plateaux, pendant qu'on nous gave de divertissements inutiles? Et qui finance tout ça, vraiment? Pourquoi les grands fonds privés, les multinationales et même des lobbies investissent par des millions dans la presse et les médias? Est-ce encore de l'information ou juste une stratégie d'influence? Pourquoi ceux qui possèdent mal les médias sont aussi ceux qui contrôlent la politique et l'économie? Peut-on encore parler de liberté de la presse ou a-t-on basculé dans la propagande moderne? Et si le vrai danger c'était qu'on ne nous informe plus, mais qu'on nous formate?
Après la langue pénale et zoo, Jacques Monique présente son nouveau livre « Sommes-nous des caméléons ?» Présentation et signature le mardi 13 novembre à l'hôtel NSI à Ébène à 17h45. Le public est cordialement invité. À la demande des libraires, lancement également de la troisième édition de La langue pénale et zoo. Sommes-nous des caméléons? Le nouveau livre de Jacques Monique.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, créer la connivence entre auditeur et locuteur. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres, livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rapport à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Et Zola,
nous là.
Et Zola,
toujours là.
Et Zola,
nous là.
Et Zola,
toujours là.
Et Zola,
nous là.
Et Zola,
toujours là.
Comment c'est Zola, Zola,
Zola. Toujours là.
Édition spéciale, le mois du créole est de retour. Tout au long du mois d'octobre, le KEPCA, le mois du créole à Montréal, en partenariat avec Popourri Show, célèbre en grande pompe les langues et les cultures créoles à Montréal et sur CUT 89,5 FM. Le mois du créole propose cette année une programmation riche et inclusive, concerts, spectacles, de l'humour, ateliers de danse, à la rencontre des écrivains et artistes créoles du monde, découvertes culinaires, la foire du livre Québec, Caraïbes, Océan Indien, conférences, table ronde et un hommage particulier à notre ami et grand musicien du groupe Cassav, parti hélas trop tôt, Jacob Desvarieux, à surveiller chaque dimanche sur CUT-FM. Du 4 au 31 octobre, le KEPCA et Sarel B, porte-parole, artiste multidisciplinaire et humoriste, vous invite chaleureusement à visiter le site web moiducreole.ca ou popourrichaud.com pour la mise à jour de la belle programmation du mois du créole Montréal. Pour toute information, fk@videotron.ca. Tout au long du mois d'octobre, découvrez la richesse et la beauté des peuples créoles du monde sur votre fréquence et sur moisducréole.ca. Mot en vie ou les cas contents. Bon mois du créole 2025.
L'oreille est hardie.
Restez hardie. Moussaillon, Moussaillon, Moussaillon.
Patrice et Lady Kozak.
Bienvenue, bienvenue dans l'émission où s'entendent les cultures des Outre-mer. Et l'oreille écoute cette semaine la parole de Maryse Condé, la très grande écrivaine guadeloupéenne qui s'est éteinte le 2 avril 2024 à l'âge de 90 ans. Une parole qui résonnait dans ses romans et dans ses pièces de théâtre, parlant tout à la fois d'identité, d'esclavage, de racisme, de colonisation, de la femme, de l'homme, d'amour, de la vie. Une parole que le journaliste Dominique Rodrère a recueillie régulièrement dans l'émission Paris sur mer qu'il nous proposait sur RFO puis sur la première. Hommage à une grande dame dont la parole nous manquera. Voyage chronologique entre 1997 et 2014 au fil des sentiments, des idées, de la sincérité et du franc-parler de Maryse Condé. Nous allons l'entendre et pour commencer, c'était il y a plus de 25 ans, nous sommes en juin 1997.
Bonjour, des femmes et des livres, Outre-mer, la littérature est peut-être plus que nulle part ailleurs. Un mot du genre féminin, les Césaire, Chamoiseau, Confiant ou autres Axel Gauvin ne font oublier ni Gisèle Pinault, ni Maryse Condé. C'est cette dernière, Maryse Condé, qui est aujourd'hui l'invitée de Paris sur mer à l'occasion de la parution de ses deux derniers livres, un roman, Desiderata, et un recueil de nouvelles, Pays mêlés. Maryse Condé, bonjour.
Bonjour.
Alors à entendre Dewe Gorodé, je me demande si nous avons eu raison finalement de faire des femmes écrivains d'outre-mer une catégorie en soi. Autrement dit, est-ce qu'il y a beaucoup en commun entre la terrienne Gorodé, bien attachée à la culture des ignames et des tarots de Ponérimouin, sa région d'origine, et vous, l'intellectuel universaliste qui peut puiser ses sources d'inspiration aussi bien dans votre Guadeloupe natale que dans l'Afrique matrimoniale ou qu'aux États-Unis où vous vivez maintenant?
Enfin, je crois que c'est toujours dangereux de faire des catégories comme ça. Je pense que les femmes écrivaines sont aussi diverses que les hommes écrivains et qu'on n'a jamais eu l'idée de mettre dans le même sac, pour ainsi dire, Césaire et puis Modiano et puis etc., etc. Donc je crois qu'il y a une facilité à vouloir penser que les femmes écrivaines disent la même chose, ont des ressemblances dans l'écriture, dans la thématique, dans la narrativité. Je pense que nous sommes absolument différentes les unes des autres. On ne peut pas toujours en référer au sexe auquel nous appartenons, ni même, c'est ce que j'essaie de dire, à l'ethnicité à laquelle nous appartenons. Le fait que nous soyons femmes et noires ne fait pas que nous ayons une sorte de discours univoque.
Alors j'en reviens à Dewe Gorodé. Comme vous, elle militait dans les années 70 chez les indépendantistes de son pays, hein, au sens géographique du terme, mais elle fait toujours partie de ce courant, tandis que vous semblez plutôt désabusé de ce côté. Je vous cite, hein, j'ai lu une interview de vous où vous disiez « Depuis Maastricht, les indépendantistes comme moi ont l'air de losers. Aujourd'hui, je fais comme tout le monde, je me reconvertis dans l'individualisme, la fuite ». Et puis vous rectifiez vous-même la fuite, non pardon, la réussite individuelle. Alors pour vous, les grands idéaux collectifs, c'était un leurre et ils ont tous vécu finalement?
Enfin évidemment, l'interview que vous citez est mon cœur. C'est une façon de dire que bon, la génération à laquelle j'appartiens collectivement n'apparaît ici, puisque nous nous retrouvons en 97 avec une Guadeloupe encore département français d'outre-mer, une Martinique aussi, une Guyane également. Et que finalement, nous qui avions rêvé d'avoir un jour un drapeau, un passeport, des éléments de souveraineté, nous n'avons rien du tout. Et que la plupart, dans leur ensemble, les Guadeloupéens, quand on leur demande comment ils voient leur avenir, le voient évidemment lié à ce traité célèbre de Maastricht. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut démissionner. Je crois que dans une situation qui est apparemment désespérée, comme la situation antillaise, il faut continuer à dire non. Il faut continuer à dire nous sommes différents, nous ne sommes pas français, nous appartenons à une histoire différente, à une expérience différente. Il faut essayer, ce qui est finalement mon rôle premier, de dire cela dans des livres qui parlent peut-être à un grand nombre et qui expriment une forme de combat qui peut-être n'est pas militante comme celle à laquelle j'avais rêvé, mais qui quand même est importante.
On va parler de votre dernier roman, à vous, Maryse Condé, Désirada. Comme son nom l'indique, ça se passe dans l'archipel guadeloupéen, la Désirade, et puis aussi en région parisienne. Vous vivez aux États-Unis. Est-ce que cet éloignement géographique vous aide à mieux filtrer ce qu'il pourrait y avoir de marquant dans le décor et d'essentiel dans les mentalités collectives guadeloupéennes ou parisiennes? Est-ce que c'est bon de ne plus être justement dans les lieux où on enracine son action?
De toute façon, je n'aurais jamais écrit ce livre en résidant à la Désirade d'un petit hôtel où j'aurais pris un pied-à-terre pour 6 mois ou 2 ans. Je n'aurais jamais pu écrire ce livre que loin de la source d'inspiration. Donc, par conséquent, je ne crois pas que ce soit important de savoir si je vis là ou si je vis ailleurs, ou si je rentre là ou si je rentre ailleurs. Je crois que c'est aussi quand même une erreur de demander à un romancier d'être une sorte de photographe de la réalité.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est précisément le contraire. Est-ce que vous avez besoin de l'éloignement pour mieux écrire?
Je ne crois pas. Je pense que j'écrirais... si j'étais là, aussi bien que en étant loin. Le problème du rapport à la réalité ne se pose pas de façon aussi évidente.
Les intellectuels antillais, tiens, en particulier, ont parfois, justement, vis-à-vis de leur propre terroir, de leur propre terre, un culte quasi mystique. Hein. Est-ce que vous, on ne vous en veut pas, est-ce que ça ne vous a pas été dit par les uns ou par les autres de votre expatriation qui rimerait avec une forme d'abandon?
Oui, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur. Je suis pas la seule. Par exemple, si on parle des États-Unis, Édouard Glissant aussi enseigne et vit à New York. Je crois qu'il faut pas tellement s'inquiéter de ce que les gens peuvent dire pour vous définir. Les critères par lesquels on se définit, les critères qui comptent pour un individu ne sont certainement pas le jugement des autres.
Maryse Condé, année 2008.
Deux femmes, deux couleurs, deux statuts sociaux et un même secret, c'est la trame de La Faute à la vie, lue dans le cadre du théâtre d'Outre-mer en Avignon. Bonjour Maryse Condé.
Bonjour.
Écrit-on différemment pour être lu ou entendu?
Oui, je crois que c'est assez différent. Quand on écrit pour être lu, bien sûr, il y a une part auditive, ça veut dire qu'on lit son texte et on essaie de voir si on a bien choisi les mots, les expressions, les images. Mais quand même, pour le théâtre, on a le souci d'un dialogue. Il faut que dans le dialogue, il y a à la fois de l'humour, de la tendresse, de la cruauté, tout ce qu'on a le temps de développer dans un roman. C'est plus concis, plus bref, plus rapide dans une pièce de théâtre. Évidemment, le travail pour l'écrivain est totalement différent.
Alors, autre chose, écrit-on différemment quand on écrit sur commande, puisqu'il s'agit d'une commande avec cette pièce?
Oui, mais la commande, ça veut dire quoi? Ces deux femmes, deux actrices, surtout Firmine, que je connais depuis 20 ans ou davantage, que j'aime beaucoup, donc c'est pas un travail obligé. Quand on dit comment, on a l'impression que le travail est forcé, imposé et qu'il n'y a pas de plaisir.
Oui, et là, que vous n'avez plus votre liberté d'écrivain,
oui,
finalement.
Tandis que là, ces deux femmes que j'aime qui disent « fais un texte pour nous », je crois que au contraire, l'imagination, la sensibilité, l'esprit de moquerie peut s'exercer en toute liberté. Donc c'est une commande agréable.
Premier extrait de La Faute à la vie qui met en présence deux femmes, toutes les deux descendantes d'immigrés, italiennes pour l'une, antillaises pour l'autre.
Nous les Italiens, nous sommes partis par train, par bateau, à pied, un baluchon sur l'épaule. Nous avons couvert la terre de nos hommes et de nos femmes. Partout on s'est moqué de nous, on nous a insultés dans toutes les langues. Rital, macaroni, waps.
Enfin, tu ne peux pas comparer le traitement que les Italiens ont reçu avec celui des Antillais ou des Africains. Les Italiens sont des blancs. On ne les met pas dans le même sac que ceux qui ont la peau noire.
Qu'est-ce que la couleur de la peau vient chercher là-dedans? Un émigré est un émigré.
La couleur de la peau change tout. Tu as entendu parler du racisme.
De quel point de vue êtes-vous la plus proche, Maryse Condé, de l'italienne qui dit que la couleur de la peau n'a aucune importance, ou bien de l'antillaise qui dit qu'il n'y a pas de préjugé supérieur à celui-là?
C'est plutôt l'écho d'une sorte de discussion que j'ai souvent avec des amis d'origine étrangère qui sont fixés en France ou aux États-Unis. Pour moi, la peau, la couleur de la peau change tout. Les amis me disent pas du tout, un immigré c'est pareil, qu'il soit blanc ou noir ou jaune, il perd tout, il survit à un exil extraordinaire, et toujours j'ai le même embarras, la même confusion. Je ne sais pas si dans le fond c'est pas vrai. Peut-être que je suis obnubilée par la couleur, parce qu'évidemment j'ai l'impression que pour un immigré noir, la situation est encore plus douloureuse et plus délicate à résoudre. Mais dans le fond, j'avoue que je ne sais pas très bien.
Alors Marie Scandé, soyons directs. Le fait d'être une femme noire, est-il un poids pour vous?
C'est-à-dire pas du tout pour une femme comme moi.
Parce que vous êtes connue, reconnue.
Oui, un écrivain, une femme qui enseigne à Columbia.
Est-ce que c'est un poids dans la rue?
Peut-être dans la rue pour quelqu'un qui est inconnu. Mais pour une femme comme moi, je crois que la couleur, c'est un plus. On a envie de savoir ce qu'une femme noire de mon niveau, de mon calibre, a envie de dire. Qu'est-ce qu'elle a caché dans sa tête, dans son cœur. On est curieux de la connaître. C'est pas du tout un handicap, c'est au contraire, comme je disais, un plus.
Et à l'inverse, justement, est-ce que finalement votre identité attaquée hein, de femme noire, est-ce que c'est pas le ferment de votre création littéraire?
Oui, mais j'ai beaucoup évolué sur le problème de l'identité. Je n'y crois plus tellement. L'identité, j'aime à le répéter, c'est une histoire personnelle. Ça dépend de mon vécu, de mon histoire, de mon rapport à moi-même et aux autres. Et finalement, l'expérience de Marie Scandé n'a rien à voir avec les autres. Donc finalement, parler de l'identité ne peut se faire quand d'une manière terriblement subjective, et ce que je dis pour moi, est valable pour moi, et pas du tout valable pour les autres.
Dans La faute à la vie, on entend écrire « ce n'est pas vivre », c'est même tout le contraire. Est-ce que pour vous, ça a été une façon de se protéger, justement, je parlais d'attaques, des attaques de la vie?
Je crois que si je n'avais pas écrit, je serais une femme absolument meurtrie, blessée, peut-être même détruite. Parce que sans vouloir dramatiser et tomber dans mes lots, j'ai été victime de tellement d'attaques venant de partout, et surtout des miens, de mes compatriotes, que s'il n'y avait pas eu toujours l'écriture pour me préserver, pour exprimer ce que on ne voulait pas que je dise, je pense que sans l'écriture, je serais quelqu'un de totalement différent.
Si je résume, Marie Scandé, la vie a été coupable de méchanceté vis-à-vis de vous. Et de vous, de quoi avez-vous été coupable vis-à-vis de la vie?
Je pense que mon grand défaut, comme celui de Simone dans la pièce, c'est peut-être trop de confiance en moi, un peu d'arrogance, l'impression qu'il suffit de vouloir et de penser fortement à quelque chose pour y arriver. Je me suis jamais tellement préoccupée de l'opinion des autres. J'ai jamais tellement fait de concessions aux autres.
On vous taxe de complexe de supériorité, Marie Scandé?
Oui, peut-être. Oui, je crois. Je crois.
Marie Scandé, année 2009.
Bonjour. Marie Scandé a été la première présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage. Avec elle, nous allons discuter de la nécessité et de l'esprit des commémorations du 10 mai. Avec la femme de lettres, nous parlerons de littérature jeunesse. Marie Scandé sort en effet chez Sepia une version allongée de son Savannah Blues. Avec l'ancienne universitaire à New York, nous reviendrons sur la première centaine de jours de Barack Obama à la Maison Blanche. Enfin, avec l'intellectuelle et ex-indépendantiste guadeloupéenne, nous chercherons à comprendre la crise aux Antilles et au-delà, le malaise ou pas, dans l'ensemble de l'outre-mer. La première version courte était sortie dans la revue Je bouquine. Marie Scandé l'a complétée pour une sortie livre et Tessa Gromann a lu Savannah Blues.
Zora a 13 ans et demi, mais elle en paraît plus. C'est pourquoi elle décide de mentir sur son âge pour obtenir un emploi au McDo de sa ville qu'elle n'aura pas. En revanche, son entretien d'embauche aboutira à la visite d'une assistante sociale qui découvre la misère de Zora et de ses trois petits frères et sœurs, sales, affamés et livrés à eux-mêmes dans une maison délabrée d'une petite ville du sud des États-Unis. L'histoire de Zora est celle des laissés pour compte de l'Amérique moderne. Les Noirs, comme la famille de Zora, mais pas seulement. Dans ce court et sombre récit, chacun vit pour soi. La vieille métisse parvenue qui traite ses voisins noirs comme des domestiques, la réfugiée cubaine qui veut juste gagner sa vie, les commerçants indiens qui ne cherchent pas à comprendre la peine de Zora. Il y a de l'espoir tout de même dans ce roman. La mère, gravement malade, est sauvée grâce à l'intervention des services sociaux et l'amour de Zora pour sa famille résiste à tout.
Bonjour Marie Scandé.
Oui, bonjour.
Alors ce livre se termine sur une happy end, sur une fin heureuse. C'est parce qu'il faut toujours donner de l'espoir aux enfants.
Non, pas simplement. Je crois que dans le fond de la tristesse, il y a toujours un peu de bonheur. Je crois que Zora, après avoir longtemps cherché comment améliorer sa vie, comment trouver le moyen de rendre la situation moins sombre, arrive à un peu de bonheur. Je crois le père aussi. Le père a beaucoup galéré, comme on dit au Canada. Il revient chez lui désespéré. Et finalement, peut-être qu'il a l'espoir d'une vie meilleure.
Et la morale, Marie Scandé, c'est que le bonheur est familial. Le bonheur est justement dans cette cellule-là.
Le bonheur est quand même chez soi. On a tendance, quand on parle d'immigration, à poser la question, qu'est-ce que les immigrés apportent au pays qu'ils reçoivent? Et on dit, ils apportent beaucoup. D'accord. Mais les immigrés, en quittant leur pays, ils perdent énormément de choses. Ils souffrent énormément. S'ils partent, c'est parce qu'ils souffrent. Et je voulais simplement mettre l'accent sur le fait que si tout le monde pouvait rester chez soi, avec sa famille, avec ses amis, dans un environnement familier, ce serait peut-être un bonheur plus grand.
Vous ne croyez pas aux ailleurs meilleurs?
Oui, il peut être meilleur. Moi, par exemple, j'ai beaucoup voyagé. Je ne vis pas uniquement en Paris. Je vis à New York. Mais ce sont des départs volontaires. J'ai voulu partir. J'ai cherché à aller ailleurs. Mais quand partir est un besoin de survie, une recherche simplement de survie, je crois que ça s'accompagne de beaucoup de douleurs.
Alors justement, vous avez beaucoup écrit sur les lieux dans lesquels vous avez vécu, que ce soit sur l'Afrique, sur la Guadeloupe, évidemment, sur les États-Unis, on le voit là avec Savannah Blues. J'ai pas le sentiment que vous ayez tellement écrit sur l'Hexagone. Il ne vous inspire pas?
J'avouerai franchement que non. J'ai pas du tout envie d'écrire un roman sur Paris.
Pourquoi?
Je crois que le rapport que j'ai à Paris n'est pas ce type de rapport. C'est toujours un endroit où j'ai attendu d'aller ailleurs. C'est jamais un endroit où je suis restée planter des racines, m'installer. Donc je crois que ce côté un peu
éphémère, vous êtes en transit ici, finalement.
Toujours en transit. Alors, ça ne m'inspire pas la littérature.
Jusqu'à quand, Marie Scandé? Et jusqu'où le passé peut-il prédéterminer le présent?
Oui, je pense que on exagère un peu l'influence et le souvenir et le poids de l'esclavage aujourd'hui. Je pense que dans une large mesure, les gens sont plus ou moins libérés. Mais les défauts dont nous souffrons ont besoin d'être expliqués et d'être très commode de trouver comme explication l'esclavage. Il faudrait, je crois, aller plus loin, plus profond, essayer de voir si la formation des sociétés, le système de plantation, l'oppression coloniale, la dépendance économique dans laquelle nous vivons jusqu'à maintenant ne sont pas de facteurs encore plus importants que des traumatismes du passé esclavagiste.
Marie Scandé, année 2012.
Bonjour, dans son dernier livre, La vie sans phare, du verbe farder, Marie Scandé pratique une forme de striptease littéraire, fidèle au souci de vérité qui dicte sa conduite. Elle dévoile tout sur les 40 premières années de sa vie, parle des hommes qui ont croisé sa route, de la difficulté de rester une femme libre en étant la mère de 4 enfants, de la Guadeloupe où elle a vécu une jeunesse hors sol, de ses années africaines bien loin, du rêve qu'elle s'en faisait. Marie Scandé est l'invitée de ce Paris sur mer qui a pris le large à Ouessant. L'ambition de Maryse Condé dans La vie sans phare, c'est d'oublier le stylo de bois, autrement dit d'écrire vrai, de se raconter au plus près de ce qu'elle a vécu, même quand ça fait mal. C'est pourquoi il nous a semblé intéressant de mettre en regard de cet autoportrait dégrimé, un portrait plus officiel, reconstitué à partir de différentes sources par Gladys Say.
Maryse Condé est née en Guadeloupe. Après ses études de lettres à Paris, débute son aventure africaine. Côte d'Ivoire, Guinée, Ghana, Sénégal, pays d'adoption, terre d'inspiration. Son roman « Ségou » lancera sa carrière de romancière. Depuis, romans, récits, essais, nouvelles se succèdent, tout comme les distinctions. Prix littéraire de la femme, prix Oursenard, première femme à recevoir le prix Peterboth aux États-Unis, dernier pays d'adoption qui couronne l'ensemble de son œuvre. Une œuvre habitée par l'Afrique, la créolité, l'identité noire. L'écrivain est aussi femme engagée, compagne de route des indépendantistes, première présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage. Maryse Condé, l'insulaire, a toute sa vie porté l'universalité dans ses combats.
Bonjour Maryse Condé.
Bonjour.
Dans un portrait, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
Oui. Ça dépend un peu. Le portrait que je viens d'entendre me paraît totalement fabriqué. Pas de vie, pas de vérité. Beaucoup d'images construites une fois pour toutes. Et finalement, c'est ce que j'ai voulu détruire dans La vie sans phare.
Alors, une autobiographie par rapport à une biographie, c'est précisément le moment où le verbe se fait chair.
Une autobiographie permet de dire des choses que personne n'avait dit auparavant. Il ne dira après. J'avais une image de Maryse Condé, la militante pure et dure, qui aime l'Afrique, qui est toujours à côté des grandes causes, qui finalement est fausse. Maryse Condé, c'est une femme qui, pendant toute sa vie, s'est cherchée à chercher, à comprendre le monde, elle-même, bien sûr, et qui peut-être n'a pas toujours réussi.
Et quelle est la différence entre Maryse Condé et Maryse Boucolon? C'est donc votre nom d'origine, votre nom de jeune fille, comme on dit. Est-ce que Maryse Condé, le personnage, vous en parlez à la troisième personne d'ailleurs, comme si c'était pas tout à fait vous, en quoi vous la reconnaissez? En quoi est-ce qu'elle vous échappe un peu?
Maryse Boucolon était une enfant, une jeune fille extrêmement gâtée, qui avait en principe tout devant elle, tous les succès intellectuels, sentimentaux, et qui en fait ne devait pas connaître l'échec. Maryse Condé est une femme qui, au contraire, a beaucoup souffert et qui est devenue ce qu'elle est, un écrivain épris de liberté, épris de vérité, au prix d'un effort considérable.
Est-ce que c'est vous, Maryse Condé? Est-ce que c'est votre vous intime? Est-ce que c'est votre vous profond? Ou est-ce que c'est la femme image, votre représentation vis-à-vis des autres?
Je crois que Maryse Condé de La vie sans phare est la vraie, mon image. Non, Maryse telle qu'elle a aussi près que je peux dire que j'ai vécu, que j'ai ressenti, que j'ai imaginé. J'ai voulu casser l'image, changer l'image et aller au plus près du réel.
L'Afrique, c'est d'abord une fuite de Paris où tout va mal à ce moment-là pour vous?
Je crois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai laissé dire sur le choix de l'Afrique au départ. J'ai toujours voulu qu'on pense que c'était un choix politique, alors qu'en fait, le choix était beaucoup plus complexe. Peut-être que je me fuyais, peut-être que je fuyais les souffrances que j'avais eues, connues en France et par un Antillais, et que peut-être le départ était moins noble que je n'ai voulu le dire après.
Maryse Condé, vous avez présidé le comité pour la mémoire de l'esclavage, une mémoire que l'on cultivait pourtant peu hein, dans votre famille de grands nègres, c'est ce que vous dites, les Boucolons. Vous voyez ça comme une ironie de votre histoire personnelle d'avoir hérité de cette présidence?
Je pense que si j'ai accepté, c'est que je voulais justement changer. Je voulais me venger d'un silence que je trouvais coupable de mes parents. Et maintenant, faire œuvre commune avec le plus grand nombre.
En étant privé du créole hein, par vos parents qui ne voulaient pas que vous le parliez, est-ce que vous étiez amputé justement d'une partie de Guadeloupe ?
Oui, mais il y a une phrase que je dis tout le temps. Je ne écris pas en français, je n'écris pas en créole, j'écris en mariscondé. Je veux dire que faire du créole, le fer de lance, le fondement de l'identité antillaise m'a toujours paru très surfait. Il y a beaucoup d'autres éléments qui font que on se sent, on est guadeloupéen ou martiniquais, on n'a pas forcément besoin de parler créole pour cela. Je d'après créole, mon premier mari était guinéen, le deuxième est anglais, je vis à New York, je ne parle jamais créole et pourtant, je me considère profondément à 100% guadeloupéenne.
Marie Scondé, année 2014.
Bonjour, La vie sans phare, titre de son autobiographie en 2012. Marie Scondé la voit désormais depuis le miroir sans teint, des gradins, dans le reflet théâtral qu'en donne la metteur en scène Eva Doumbia, cette fois-ci à la chapelle du Verbe incarné, pour le festival Off d'Avignon. Elle l'entend dans la voix d'une autre, l'actrice Astrid Bahia, qui interprète son rôle sur les planches. Invitée de cette émission, la romancière Marie Scondé et son double Astrid Bahia. Nous avions parlé en avant-première du contenu très inattendu de La vie sans phare au Salon du Livre Insulaire de Ouessant en 2012, acte 2 avec sa version scénique. Bonjour Marie Scondé, Astrid Bahia.
Bonjour.
Votre vie peut-elle rester sans phare au théâtre, Marie Scondé, le théâtre étant l'art de grimer, de se farder précisément?
Non, j'ai trouvé qu'elle était plus brutale et plus cru au théâtre qu'en écrivant. Quand on écrit, même si on doit être lu par des centaines, peut-être même des milliers de lecteurs, on a avec eux une sorte d'intimité. On leur glisse des vérités à l'oreille. On attend d'eux de la sympathie et de la compréhension. Au théâtre, c'est différent. On ne sait pas ce qu'on va provoquer. Est-ce que des gens vont aimer? Est-ce que des gens vont haïr? Donc, il y a un rapport différent que crée le théâtre.
Autrement dit, quand Astrid Bahia joue votre propre personnage, Marie Scondé, elle vous choque?
Un petit peu. Je découvre une Marie Scondé que peut-être je ne connaissais pas, qui fait des choses bien ou mal, et que peut-être j'ai envie de juger. Alors que quand j'écris, je ne me juge pas.
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, Astrid Bahia, de jouer Marie Scondé ou d'être en ce moment assise en face d'elle en sachant que vous allez parler d'elle?
Oh non, je dirais que le plus difficile ou le plus éprouvant, en tout cas, c'est plutôt de l'interpréter. Parce que elle est encore vivante et justement il y a son regard qui est encore présent. Donc non, lorsque nous sommes assises ensemble, elle est tellement agréable et douce que je non.
Est-ce qu'elle vous impressionne?
Alors au début oui, elle m'impressionnait beaucoup. Maintenant l'admiration est toujours là, mais c'est moins comment dire. Je me sens plus libre avec elle et plus à ma place aussi.
Face à l'icône que vous commencez à être, Marie Scondé, il n'y avait que vous qui puissiez être iconoclaste. Vous aviez besoin de briser le miroir pour vous regarder dans la glace?
Oui, ce mot d'icône, c'est un des mots que je déteste le plus. Je ne veux pas être une icône. Je veux être une femme, une vieille femme, une amie, une grand-mère, une mère, mais je ne veux pas être une icône. Donc finalement, La vie sans phare a été un peu une entreprise de démolition, des mythes et des clichés qui circulaient à mon sujet. Je crois que je reste je, mais complexe, pluriel, varié, changeant d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, mais je crois que je reste quand même, je pense, rester un individu, une entité qui regarde le monde et le reste des humains autour d'elle. Je crois que je demeure.
Marie Scondé, 1934-2024.
Édition spéciale. Le mois du créole est de retour. Tout au long du mois d'octobre, le KEPTA, le mois du créole à Montréal, en partenariat avec Popurucho, célèbre en grande pompe les langues et les cultures créoles à Montréal et sur CUT 89,5 FM.
Il y a une compréhension mutuelle entre Guyanais et Haïtiens.
Ok.
Donc au niveau du créole. Parce que le créole, quelque part, c'est le facteur unificateur des anciennes colonies françaises. Mm-hmm. Si je vous dis par exemple en créole haïtien, on dit map, nap, lap. Eh bien, en créole guyanais, on a mot. To, mo, c'est moi. To, c'est où. Ye, et vous dites yo. Ye, encore le guyanais, c'est tout ça. Ensuite, par exemple, au lieu de dire pain, on dit dit pain. Okay. On dit dit pain. Au lieu de dire, par exemple, jodia, le guyanais dit jodla. Jodla. Donc, il y a, et de, quand on voit, par exemple, les migrants haïtiens, ils intègrent les termes guyanais dans leur façon de parler de nos jours en Guyane. Donc, pour, ça démontre une sorte de syncrétisation entre les langues. Par exemple, je peux dire, sato kabay. Un haïtien dit, sak passé, sak abay. Alors que les haïtiens disent, sak abay. Et en créole, guyanais, on dit, sato kabay. Donc, il y a cette compréhension mutuelle au niveau linguistique.
C'est la bonjour,
c'est la bonjour,
c'est la bonjour,
ça t'a fait.
nation. Florida. Faut pas déconner, non. D'une part d'Ivry, mais pas fait pas le chien. Nous même c'est pas bien fait à sous ta plane, ok, ouais. Qu'est-ce qu'on comprend ça? Nous qu'on comprend ça? Nous qu'on comprend ça? Non, pourquoi ça? Oh, oui, bon, ça va bien tout le monde? Nous allons recommencer le free money. Attention tout le monde, sous exception. Free money. Tout le monde en position, le meilleur. Et c'est parti, bien, bien. Continue, c'est qui t'a boudou. Une fois des filles, mais pas fait pas chier. Nous même c'est pas bien, bien, à sous table là, nous t'es ouais. Et puis on comprend ça. Nous qu'on va comprendre ça. Nous qu'on va comprendre ça. Qu'on va comprendre ça. Oh, madame, maman, maman, bien. Madame, maman, maman, bien. Qu'est-ce qu'on comprend ça? Y est pas. Nous-mêmes, c'est pas bien, bien. À sous ta blague, ou qu'est-ce qu'on a pas la bimbo?
La bana bimbo.
Vous venez de la chambre de ça?
La bana bimbo. La bana bimbo. La bana bimbo.
Un piquet là. Qu'a joué le domino. Ça va chaud là. Ça va chaud. En tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Et de la morceau qui suit, nous avons besoin de vous. Et pour que ça soit beau, il faut que tout le monde, tout le monde, tout le monde, sans exception, participe. Alors je vous dirai de vous mettre en position. Allez-y, tout le monde, sans exception, en position. Sans exception, j'ai dit. Hein. Ok? Et vous faites comment? Pas, pas. En nous aller. Voyez monter. En nous aller. Voyez monter. Ah, ça va être chaud, mais ne me lâchez pas. Balancez la sauce. Attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ne me lâchez pas. En position, tout le monde en position, en position, en position, en position. Et ça va être beau. Attention. On nous allait. Voyons maintenant à moi. On nous allait. C'est ça. On nous allait. Voyons maintenant à moi. On nous allait. Show.
Parce que je veux parler. Et je l'ai pour nous parler. Parce que je veux nous parler.
Parce que vous nous parlez.
parce qu'il faut nous parler. Musique et l'amour, c'est ça, tout c'est l'un qui fait peur.
Ça va bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Là-bas. Et vous l'avez appris au début. Et pour que ce soit bon à nouveau, je vous demande de vous mettre en position. Tout le monde en position, en position, en position. Ah, ça, c'est pas ça. Eh, on va aller. Ah, c'est ça. Vous voyez monter, hein. Eh, on va aller encore. On va aller encore. Vous voyez monter. Attention, voyez monter. Attention, mesdames, mesdames, messieurs. Oh, commencez, sortez, 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 montez. Couille, 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 couille. Show!
Que j'ai porté maillot, jamais que j'ai porté maillot. Antillais qui a porté maillot, wiggy dip, wiggy dip, wiggy dip. Porté maillot, porté maillot, porté maillot, porté maillot. Les signes j'ai porté maillot, jamais que j'ai porté maillot. Antillais qui a porté maillot, wiggy dip, wiggy dip. Porté maillot, porté maillot, porté maillot, porté maillot. Te va yo, te va yo, te va yo, te va yo,
thank you. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
The French have a very different relationship with work than the rest of us, all right? In that they don't give a shit about it. Which honestly I found inspiring. Yeah. I feel like a lot of us have become a little too attached to our work, you know? We identify with our work. Have you ever asked somebody just randomly to be like, hey, tell me about yourself? And they'll be like, well, I'm an architect. And tell me about yourself. Well, you know, I own a hair salon. And tell me about yourself. And people will tell you about what they do. You know, it's become the thing that people focus on. The French don't do that. You'll never meet a French person who does that. You go up to a French person, you'd be like, excuse me, what do you do? Be like, oh, me, I go for walks with my friends and... You know, I like to, eat good food. And you're like, no. What do you do for a living? It's like, for a living. Pardon. Okay, for a living. Okay, no, I breathe. And, of course, I have to make love, you know.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
De 11h à 13h, Pot-pourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Pot-pourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc. Quoi de neuf ? Les cafés du Créfaux. Eh oui, nos amis du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le Créfaux, ont le plaisir de vous présenter la cinquième saison. Quoi de neuf ? Les cafés du Créfaux. Avec la soif d'apprendre, un membre du Créfaux s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette cinquième saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du Créfaux. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur OISI. .utoronto.ca/fr/Créfaux ou tout simplement popourichaud.com. Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Pot-pourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Pour la rentrée 2025 à 2026, Pot-pourri Show confirme son ambition de rester une référence incontournable de la francophonie d'ici et d'ailleurs. 2025-2026, des nouveautés, des débats, des coups de cœur, des coups de gueule, de nouvelles voix et du renfort avec les podcasts du Créfaux. Les rendez-vous de Ciné Franco, les projets et initiatives visant les communautés immigrantes francophones de la région de Welland et du Niagara, avec nul autre que Sophie Franc. Les projets de Français du Monde à Toronto, les rendez-vous et nouveautés littéraires de la communication et les éditions Prise de Parole, le journal d'Haïti et des Amériques avec RFI et France 24, les visites guidées du Musée Royal de l'Ontario, la playlist de nos DJ et de Tolalito Music, et les enjeux et défis de la francophonie et de l'intelligence artificielle. Singulière et plurielle, Pot-pourri Show assume son rôle de repère dans un contexte d'incertitude démocratique. Plus de détails sur popourrichaud.com. Et si vous souhaitez être parmi nos partenaires, une seule adresse, potpourri@cut.fm. Et voilà, qu'est-ce que tu écoutes comme ça? C'est quoi cette émission? Eh oui, en août 2025, Ciné Franco pense à vous. Ciné Franco est en plein effet d'essence pour la préparation de son festival grand public, qui se tiendra du 7 au 16 novembre 2025 au cinéma Carlton à Toronto. Cette année, le thème « Les facettes de l'humanité » prend forme grâce au lien de visionnage que nous font parvenir les distributeurs de France, de Suisse, de Belgique, du Québec, de l'Ontario et d'ailleurs. Chaque dimanche, découvrez les coulisses, les potins et les scoops du prochain festival grand public de Ciné Franco et courez la chance de gagner des billets sur cut.fm ou popourichaud.com. Allez, vite sur le site de cinéfranco.com pour tout savoir. Bon festival Ciné Franco 2025.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est pas ce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Édition spéciale. Le mois du créole est de retour. Tout au long du mois d'octobre, le Kepka, le mois du créole à Montréal, en partenariat avec Popourri Show, célèbre en grande pompe les langues et les cultures créoles à Montréal et sur CUT 89,5 FM. Le mois du créole propose cette année une programmation riche et inclusive, concerts, spectacles, de l'humour, ateliers de danse, à la rencontre des écrivains et artistes créoles du monde, découvertes culinaires, la foire du livre Québec, Caraïbes, Océan Indien, conférence, table ronde et un hommage particulier à notre ami et grand musicien du groupe Kassav, parti hélas trop tôt, Jacob Desvarieux, à surveiller chaque dimanche sur CUT-FM. Du 4 au 31 octobre, le Kepka et Sarel B, porte-parole, artiste multidisciplinaire et humoriste, vous invitent chaleureusement à visiter le site web moiducreole.ca ou popourichaud.com pour la mise à jour de la belle programmation du mois du créole Montréal. Pour toute information, kepka@videotron.ca. Tout au long du mois d'octobre, découvrez la richesse et la beauté des peuples créoles du monde sur votre fréquence et sur moisducreole.ca. Mots en vie ou les cœurs contents. Bon mois du créole 2025.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Merci d'écouter RFI. 9h à Washington, il est 13h en temps universel. RFI Midi, suite et fin. Le journal dans quelques instants et puis 20 minutes sur le continent américain. On va parler beaucoup des États-Unis avec l'auteur du livre Apocalypse Nerd, comment les techno-fascistes ont pris le pouvoir. Il nous expliquera comment les patrons de la tech sont en train de remodeler la démocratie américaine pour, à terme, essayer de la mettre à terre. On parlera aussi d'Haïti dans notre revue de presse et puis de l'actualité des Outre-mer françaises. Emma Jaconelli, on ira avec vous en Guyane où une sénatrice comparaît devant la justice aujourd'hui.
Marie-Laure Finera Hort est soupçonnée de détournement de fonds publics.
A tout à l'heure.
RFI Midi. Gonaïve.
90.5 FM.
La revue de presse, comme chaque jour. Bonjour Marine de la Moissonnière.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Des policiers haïtiens blessés sont bloqués en ce moment à Cuba. C'est Ali Beaupost qui nous l'apprend.
Ah oui, une vingtaine d'agents de la police nationale d'Haïti sont en ce moment à Cuba pour recevoir des soins après avoir été blessés en luttant contre les gangs, explique le site haïtien. Ce qu'Ali Beaupost a pu contacter dénonce leur abandon par l'État haïtien, le manque d'argent, de médicaments et la cherté de la vie à Cuba, ainsi qu'un flou persistant sur un montant de 5 millions de gourdes censé être disponible à l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité, l'assureur de la PNH, de l'argent censé être disponible pour les policiers ayant besoin de soins dans un pays étranger.
Mais de l'argent qui n'arrive pas.
Et oui, ces policiers doivent donc dépenser leurs économies pour se faire soigner, précise le journal. L'un d'entre eux a même dû hypothéquer l'un de ses biens. Un inspecteur de police atteint d'un cancer est mort, seul dans sa chambre d'hôpital, implorant ses soignants de le transférer chez lui en Haïti pour ses derniers jours, raconte encore Ali Beaupost, qui rappelle qu'au moins 33 policiers ont été tués, dont près de la moitié lors d'opérations contre des gangs armés entre juin 2024 et juin 2025, selon le Réseau National de Défense des Droits Humains.
Et tout n'est pas la faute de l'État haïtien.
Non, une partie des problèmes rencontrés par ces policiers vient du contexte sociopolitique à Cuba, note le journal. La pénurie de médicaments s'explique ainsi par l'embargo américain sur l'île, mais cela soulève des questions sur le choix de Cuba par les autorités haïtiennes comme destination privilégiée pour soigner des policiers blessés, estime Ali Beaupost. Nous sommes traités comme des pièces de rechange, déplore l'un d'entre eux.
Et on termine votre revue de presse avec ce coup de pub de LeBron James, star du basket américain, coup de pub qui ne passe pas du tout.
Oui, comme le raconte le Washington Post, le joueur a fait croire qu'il allait prendre sa retraite dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux lundi. Il a prévenu qu'il annoncerait la décision des décisions mardi, une référence à la décision de 2010. Il avait alors décidé de quitter Cleveland pour Miami. Aussitôt, le monde du sport s'est enflammé. Le prix des billets pour le dernier match à domicile de la saison des Los Angeles Lakers, son équipe, a explosé. Mais en fait, il s'agissait juste d'un partenariat avec une marque de cognac. Un de plus, un de trop. C'est en tout cas ce que juge le Washington Post, pour qui chaque poste stupide sur les réseaux sociaux, chaque campagne de pub absurde abîme son héritage. LeBron James est un bouffon, s'énerve le quotidien. Il n'a rien de mieux à faire, s'agace encore le Washington Post, qui rappelle que la star mondiale de la NBA s'est déjà mise en scène à de nombreuses reprises dans des pubs.
Sa voix comptait avant, se désole le quotidien.
Oui, le journal rappelle les prises de position de la star en faveur d'Hillary Clinton, l'association qui incite les Afro-Américains à aller voter qu'il a créé, ou bien encore l'école qu'il a financée dans sa ville natale. Mais tout cela, c'était donc avant, alors que sa carrière touche à sa fin. Le King ne pense qu'à ses propres intérêts, déplore le Washington Post. Il a fait la promotion d'un site de paris en ligne, alors même que les Noirs américains sont ceux qui parient le plus sur des sports et qui risquent ainsi de perdre leurs moyens de subsistance, explique le journal. Aujourd'hui, LeBron James fait la promotion d'une marque de cognac, boisson que les stéréotypes associent aux Afro-Américains, et il défend ainsi des clichés. Parcourir son fil d'actualité, c'est comme se promener virtuellement sur la 5e avenue, poursuit le journal. Les seules interruptions qui percent ce nuage mercantile sont ces rares publications truffées d'emojis qui expriment les pensées insignifiantes d'un fan de sport, tacle encore le quotidien qui conclut. C'est ainsi que LeBron a décidé de mettre fin à son règne en tant que vendeur pour n'importe quelle marque et en tant qu'exhibitionniste en quête de n'importe quel public. Le King n'est ni mort ni à la retraite, il est tout simplement à vendre.
Assez sévère. Merci Marine de la Moissonnière. Votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
RFI Midi.
Et on vous retrouve, Emma Jaconelli, pour l'actualité des Outre-mer françaises. Une sénatrice de Guyane devant la justice aujourd'hui.
Marie-Laure Finera-Horte, sénatrice de Guyane, est appelée à comparaître au tribunal judiciaire du Larivot à Matoury. Deux jours de procès dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds publics. L'ancienne maire de Cayenne est soupçonnée d'avoir perçu pendant ses deux mandats l'intégralité de son salaire d'orthophoniste de l'hôpital de Cayenne sans y exercer. Des faits qui se seraient déroulés pendant 3 ans, Mélodie Nourry.
L'enquête préliminaire diligentée par le parquet de Cayenne avait débuté suite aux révélations en juin 2016 du commissaire aux comptes du centre hospitalier de Cayenne. Préjudice estimé 230 000 euros, salaire et charges sociales compris. Un an plus tard, en juin 2017, Marie-Laure Finera-Horte était placée en garde à vue pour recel de biens provenant de détournement de fonds publics. Les investigations menées par la suite dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le parquet ont abouti à sa mise en examen début 2018. Depuis 2017, la principale concernée nie toujours les faits. Elle affirme, je cite, avoir exercé une réelle activité à temps plein en 2013 et 2014 et en partie en 2015. Fin de citation. La peine maximale encourue est de 10 ans de prison et 750 000 euros d'amende.
On compte 42 homicides en Guadeloupe depuis le début de l'année. Le dernier date d'hier après-midi. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été abattu aux Abîmes, au centre de l'île. Le congrès des élus de Martinique s'ouvre ce mercredi. Les débats seront consacrés à l'évolution institutionnelle du territoire. Après des promesses d'Emmanuel Macron faites aux élus la semaine dernière, les élus locaux tenteront de s'accorder sur des nouvelles responsabilités qu'ils voudraient se voir confier localement. Mais la population martiniquaise est-elle pour plus d'autonomie ? Mike Hirasque est allé à leur rencontre.
Rester tel qu'on est, c'est pas bon non plus. Il faut quand même qu'on puisse évoluer.
En plein déjeuner, dans un snack des Trois-Îlets, Molière dit son envie de changement pour la Martinique. Mais il est convaincu que ce sera compliqué.
On n'a pas les moyens pour être autonome.
De retour au pays après ses études, Anthony a des questions sur ce congrès.
Autonomie économique ou juridique, voir ce qu'ils entendent par là, et voir aussi ce qui est possible, parce qu'au final, si l'autonomie qu'on nous donne, c'est pas forcément une autonomie qui nous fait gagner ou prendre des choses qui vont faire évoluer le pays, je vois pas où est-ce que ça peut mener.
Le jeune homme en profite pour faire certains rappels à nos élus.
Ce que les gens attendent, c'est surtout des choses essentielles au final. Sur ça, déjà, ils devraient faire leur preuve, parce que je pense qu'il y a un gros problème au niveau de transport.
De retour de sa marche quotidienne, cette dame affiche tout de suite la couleur.
J'ai toujours pensé que nous sommes capables de nous défendre, de donner de l'espoir.
J'ai confiance en nos élus, mais ils doivent être à l'écoute de la population, ajoute la Verdi-Mornaise. Parce que si ce n'est pas le cas...
La sanction tombe. Aux urnes, terminé.
Un avertissement que cette dame pourrait mettre à exécution dès les prochaines semaines.
Un reportage signé Mike Hirasque, Martinique la Première. Bonne journée.
Bonne journée, Maja Connelly.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPKA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
What's up? Comment vas-tu? Oui, Clef Jean, ça va bien.
Bon.
Ça va bien, ça va bien.
Est-ce que nous allons faire cette interview en français?
Le mélange français, anglais, peut-être un petit peu créole.
D'accord. Essayons ça.
Let me just give y'all a few Creole 101 words that y'all can use all over the world, because Haiti already know, comprends? So... Comment vas-tu?
Je vais bien.
Ok. Comment y est? Moins bien. So, this is a very important word when you go to Haiti, okay? So, comment y est? Moins bien. Moins bien. We have another word. So, a lot of people know sac passé, for example. And sac passé means like, what's up? Like, how's it going? You know? Yeah. But the young generation, they don't necessarily say sac passé. we're more, the kids are more swag, so they say sac à fête. So it sounds like a whole rap. So when you go to Haiti, you'd be like sac à fête, and they're gonna be like non la. So that is another term of what's good, non la. This has been Wyclef Jean with Creole 101.
Si m'di ou kanal chat Haiti, ki ça ou pa konnen? Canal Sat Haïti, c'est plus passé 70 chaînes radio à service du football, du cinéma, des dessins animés, de l'information en français. Si m'ba les français aussi bien pour ça, c'est grâce à Canal Sat Haïti. Alors, envie de s'abonner?
Profitez-en! Abonnez-vous à Canal Sat Haïti à partir de $10 US par mois seulement.
Canal Sat Haïti, télévision pour tout le monde.
Contactez-nous vite au 29 46 41 41 ou au 29 47 41 41.
Si pays spécial, bandi gen pouvoir passer chef, volé gen passer maître, l'état cap manger jeune passer bête.
Nous gon leader sans leader.
Nous sans leader.
Nous gon l'état sans leader.
Sans leader.
Nous gon nation qui distrait.
Nan bouche nation wa pousser drone tak te fond bay manger vin désert caravane nan coupe de l'eau sam nou bay nan ghetto pas assez ou vle pou n'acheter manger si m pa gen respect pou grand monde président t'a di ou kolon kounya moun pa ka manger a le voix pou ta le kay tonton ou risque perdre vie ou bien système ça si ou parle le mal ou acheter 200 gout manger sou moule le pa tomber nan ventou jan bagay la et la s'il responsable n'a tomber nan grand tout
même si bagay la déranger pa gen moun ka parle l'autre nation yo ka penser mais nous même n'a penser je proverbe la dit sou pa sa Le palan, mache quoi pour sal kounia, y'a plus précis que palman.
Ou y'a pas secret pour passer, ou messe yon a vous dje kouné. Y'a politicien que tout y'a bon passé, ou sage pas ouais, qu'est pas tourné. Y'a journaliste qui pas parler au mal parce qu'il a croisé au sous chemin. Et pour petit, qu'est-ce que ça
va? Alors, nous sommes très heureux, Sarel, de faire partie à nouveau de cette aventure annuelle et incontournable pour les 12 millions de, ou 13 millions de créoles dans le monde. Et comme à chaque année, l'équipe du Kepka et le mois du créole à Montréal ont mis le paquet et nous proposent un voyage dans l'imaginaire, un mois créole pluridisciplinaire qui met en avant les langues et cultures créoles. Mmh. Et on ne va pas se mentir, il y a encore du chemin à faire, car pour beaucoup de francophones, de francophiles, des gens dans nos universités, nos écoles, nos médias, ce mois créole n'est pas toujours bien compris, bien accepté. À bon entendeur, salut. Littérature créole à l'honneur, c'est un rendez-vous incontournable pour toutes les personnes passionnées de littérature, de diversité culturelle et de rencontres créatives. C'est la 4e édition de la Foire du Livre Québec, Caraïbes, Océan Indien. Et là aussi, ça, c'est une fenêtre ouverte sur le monde créole en regroupant ces auteurs, ces écrivains, n'est-ce pas, venant pas seulement des Caraïbes, mais aussi de l'océan Indien. Et le samedi 18 octobre, de 13h à 15h30, le Centre Famille Haïtienne et Interculturelle de RDP vous invite à une après-midi de créativité et de découverte au programme Atelier Créatif, animation autour des langues et cultures créoles. Et toujours le samedi 18 octobre, voyage sensoriel au cœur de la culture haïtienne avec le spectacle Gaïa Gaona avec la chanteuse Gaïa Michelle Elie. Elle vous invite à plonger dans un voyage musical immersif de 90 minutes qui célèbre la richesse, la vitalité et la résilience de la langue créole. L'entrée est gratuite. C'est le samedi 18 octobre à 19h30. C'est tout un spectacle à la Maison culturelle et communautaire de Montréal Nord, boulevard Roland, Montréal Nord. Vous retrouverez tous les détails sur moiducréole.ca et popourichaud.com. Elle est avec nous, chère Sarel, et elle nous interprète un titre que j'aime bien, Amoureux. Mesdames, Messieurs, Gaïa, Michelle Elie, en exclusivité sur CUT 89,5 FM. Ne partez pas, restez des nôtres. Bon mois du créole, mot en vie ou l'équerre content. Allez!
Tout a commencé quand on est allé manger ensemble. Soirée cinéma. Février, je crois. Le jour t'ai rencontré, j'ai fondu devant tes yeux. J'aurais tant aimé que l'on soit amoureux. J'aurais tant voulu. J'ai donné ma personne, connaisseur. Il t'en fallait des sommes. Si je pouvais, je ne te laisserais plus partir. Si je pouvais, je te ferais revivre.
C'est beau, c'est beau. Gaïa Kaoda avec la chanteuse Gaïa Michel Ellie. Voilà, monsieur, le 18 octobre à 19h30, l'admission est gratuite, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas y aller, n'est-ce pas?
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Après La langue pénalezo, Jacques Monique présente son nouveau livre « Sommes-nous des caméléons ?» Présentation et signature le mardi 13 novembre à l'hôtel NSI à Eben à 17h45. Le public est cordialement invité. À la demande des libraires, lancement également de la 3e édition de La langue pénalezo. « Sommes-nous des caméléons ?» Le nouveau livre de Jacques Monique.
Et toi, là, qu'est-ce que tu écoutes comme ça? C'est quoi cette émission? Eh oui, en août 2025, Ciné Franco pense à vous. Ciné Franco est en pleine effervescence pour la préparation de son festival grand public, qui se tiendra du 7 au 16 novembre 2025 au cinéma Carlton à Toronto. Cette année, le thème « Les facettes de l'humanité » prend forme grâce au lien de visionnage que nous font parvenir les distributeurs de France, de Suisse, de Belgique, du Québec, de l'Ontario et d'ailleurs. Chaque dimanche, découvrez les coulisses, les potins et les scoops du prochain festival grand public de Ciné Franco et courez la chance de gagner des billets sur cut.fm ou popourichaud.com. Allez, vite sur le site de cinéfranco.com pour tout savoir. Bon festival Ciné Franco 2025.
À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Si c'est rendu dans la troisième règle.
N'y'a-t-il au Daoubi. Dans du moiré l'oreille.
C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va?
Je suis ici!
Femme gamin. I'm the man I can.
Je cherche ma fille.
C'est une histoire jamais encore portée sur grand écran, celle du grand marronnage, ces hommes et ces femmes qui ont choisi la fuite et la révolte pour échapper à leur statut d'esclave. Ni chaîne ni maître, le premier film de Simon Moutaïrou. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes scénariste et désormais réalisateur franco-béninois. Le film sort demain dans les salles françaises, mais aussi en Outre-mer et à l'île Maurice. On regarde la bande-annonce.
À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Si c'est rendu dans la troisième règle.
N'y'a-t-il au Daoubi. Dans du moiré l'oreille.
C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va?
Je suis ici! Je cherche ma fille.
Saisissant et une première en tout point de vue. C'est déjà la première fois que vous réalisez alors que vous étiez scénariste jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous a convaincu?
En fait, le sujet du marronnage, donc l'histoire épique de ces hommes, de ces femmes qui se sont enfuis des plantations, qui ont brisé leurs chaînes. Quand je l'ai découverte adolescent dans la littérature créole, chez Césaire, Chamoiseau, Glissant, Marie Scondé, elle m'a donné beaucoup de fierté. En fait, comme je pense chacun de nous, j'avais beaucoup, notamment par le cinéma américain, entendu parler de l'esclavage. Mm-hmm. Très peu dans le cinéma français, mais oui. Beaucoup dans le cinéma américain. Oui. Par contre, le marronnage, la rébellion,
Dans le symbole, c'est différent, être marron et être esclave.
Évidemment. D'un point de vue historique, l'esclave, c'est une figure un peu historique éternelle de victime, une figure de soumission. Alors qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu esclavage, il y a eu marronnage, il y a eu rébellion. Et ce sont vraiment pour moi des héros et des héroïnes de l'histoire de France, une histoire oubliée sur laquelle je veux mettre la lumière.
Vous-même, comment en êtes-vous arrivé à passer de l'autre côté de la caméra et pas scénariste?
En fait, un jour, je tombe sur une histoire qui est comme une mine d'or pour moi. Je suis à l'île Maurice, qui, au XVIIIe siècle, s'appelait l'île de France. Elle faisait partie de l'Empire colonial français. Et je me balade au sud-ouest de l'île et je tombe sur une montagne, une apparition comme ça, face à l'océan Indien, qui s'appelle le Morne-Brabant. Au pied de la montagne, une vieille dame créole me raconte une histoire. Et c'est peu ou prou l'histoire du film. C'est une histoire de résilience, s'enfuir pour sauver ce qu'on aime, peut-être les retrouver, peut-être les sauver, peut-être les voir mourir. Il y avait une intensité, il y avait une humanité dans cette histoire qui m'a tout de suite plu et je me suis donné comme mission de la ramener pour le public français.
Et ça aussi, hein, on ne le savait pas. Enfin, quand on pense île Maurice, on pense plutôt aux plages paradisiaques et pas forcément à cette histoire de marronnage et d'esclavagisme.
Mais ce que vous dites, ça concerne un peu toutes les îles comme ça, tout l'outre-mer français, y compris île Maurice. C'est-à-dire que ce sont des îles qui ont vu l'exploitation du sucre. Mmh. Le sucre a fait, au XVIIIe siècle, la puissance économique de la France. Et c'est cette puissance-là qui fonde l'esclavage. Et c'est vrai que ça fait partie de l'histoire de ces îles. Il y a très peu de musées de l'esclavage là-bas, mais je pense que c'est important de raconter cette histoire parce que c'est l'histoire de France. Mmh. Contrairement aux États-Unis où l'esclavage a eu lieu sur le sol américain, chez nous, l'esclavage a eu lieu sur des îles, mais c'est notre histoire. Quelle que soit notre couleur, quel que soit notre âge, c'est notre histoire et c'est important de la connaître et de la célébrer.
Alors, votre fiction est basée sur des faits historiques. Quelle est la part de réalité? Quelle est la part de fiction?
En fait, j'étais tellement avide d'être le plus précis possible, de donner au public une image qui soit la plus véridique possible, que je me suis entouré d'une bardée d'historiens, de linguistes, d'anthropologues, même des griots au Sénégal qui m'ont aidé sur la partie spirituelle. Et je dirais qu'il y a 70% du film qui est absolument véridique et que les 30% qui ne le sont pas, c'est juste que c'est une époque qu'on ne maîtrise pas absolument. Mais pour ces 30%-là, avec mon équipe, on a suivi notre intuition. Comme l'était très bien documenté par ailleurs, on s'est dit... Notre intuition va nous mener au bon endroit.
Alors vous parliez de spiritualité, parce que le monde des esprits, des ancêtres est très présent dans le film, versus les croyances de la Sainte Église catholique des colons. Je pense par exemple aux acteurs principaux, Ibrahima Mbaye et Anna Tiandoum, qui sont sénégalais.
Tout à fait.
Qui sont sénégalais et qui vous ont laissé filmer des vrais rituels.
Oui, ça c'est un point important. C'est qu'en Afrique, quand on est initié, et notamment au Sénégal, ils sont tous les deux sénégalais, les rituels de brousse, qu'on te donne dans la brousse, tu ne dois pas les révéler. Ça fait partie du pacte auquel l'initié se soumet. Mais c'est vrai qu'il y a une confiance qui est née entre nous. Je suis moi-même initié. Et du coup, on s'est parlé, et à un moment donné, ils nous disent non, pour la culture, pour qu'on nous connaisse, pour qu'on connaisse la beauté de notre spiritualité, si souvent caricaturée par Hollywood, hein. Où souvent c'est la sorcellerie, la magie noire qui décrit les religions animistes africaines. Ils m'ont laissé filmer cette langue sacrée, ces prières sacrées. Et moi, je voulais montrer la beauté de ça. Et je suis très heureux qu'ils m'aient fait confiance.
Vous-même, vous venez du pays du Vaudou, le Bénin. Quelle est la part de cette spiritualité que vous avez apportée dans ce film?
C'est l'idée que nos dieux et nos déesses sont l'endroit peut-être de notre plus grande fierté. Le spirituel, notre rapport au monde, notre rapport au ciel, c'est là qu'on se tient debout. D'ailleurs, souvent, les esclaves, quand ils sortaient de la cale du bâton négrier, ils étaient détruits. Ils rejetaient leur dieu. Ils se disaient, si nos dieux ont laissé faire ça, c'est qu'ils nous ont abandonnés. Et ce qui m'a vraiment touché dans ma documentation, c'est que peu à peu, avec la pulsion de vie, avec les mois qui passent, la pulsion de vie ramène les dieux. Et derrière tous les marronnages, derrière toutes les révoltes, il y a les dieux et les déesses du panthéon africain.
Et d'ailleurs, hasard du calendrier, c'est hier que le président béninois Patrice Talon a promulgué la loi qui permet aux afro-descendants de déportés d'être naturalisés béninois. C'est important.
C'est extrêmement important parce que je pense que le déracinement, Frantz Fanon l'a dit, il n'y a rien de pire. Le fait qu'il y ait une diaspora africaine dans le monde et que la terre-mère puisse être un lieu de retour, de fraternité, que ce retour-là soit possible, c'est extrêmement important. Donc, je pense que c'est un geste politique très fort.
Alors, dans le film, les personnages principaux parlent Wolof, mais on comprend que parmi les déportés, certains sont Bambara, Peul, Mandingue, Malgache, Dogon, Bantou, Yoruba. Ça aussi, c'est une histoire oubliée.
C'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que l'esclavage a tout détruit. L'amour de soi, la fierté et la mémoire. La mémoire de quoi ? Des royaumes africains. L'histoire de l'Afrique n'a pas commencé avec l'esclavage. Il faut remonter au Soudan, à l'Égypte, à tous ces royaumes africains qui sont pleinement dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai que les plus jeunes qui naissaient en esclavage ne connaissaient pas ces histoires. Et dans des causeries, on a retrouvé d'ailleurs au sommet du banc de Brabant des pierres en cercle où les esclaves faisaient leurs causeries. Dans ces causeries, on racontait aux plus jeunes l'histoire de ces royaumes, une histoire de fierté, une histoire cruciale pour pouvoir se tenir droit.
Un film aussi qui a une forte résonance avec l'actualité, les drames des migrants.
Bien sûr.
C'est l'idée aussi que vous voulez véhiculer dans ce film.
Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est comment on pouvait faire de la politique ou de la polémique avec des gens, que ce soit les marrons de mon film ou les migrants aujourd'hui, qui se mettent dans une embarcation avec ceux qu'ils aiment le plus et qui risquent la mort. Comment juger ces gens ? Comment faire des polémiques avec ça ? Je n'ai jamais compris ça. On est humain, on peut se mettre à la place des gens. Donc oui, je voulais témoigner de ce que c'est et que ce qui est génial avec le cinéma, c'est qu'on passe une heure et demie dans la place d'un personnage qui est loin de nous. Passons une heure et demie dans la peau d'un marron ou d'une marronne et ressentez leur courage, leur résilience. Elles nous parlent au-delà de leur couleur de peau.
Et pour la petite anecdote, la petite sœur de Thomas Sankara joue dans le film. Ça aussi,
c'est incroyable.
C'est un beau symbole.
C'est incroyable. C'est une grande comédienne de théâtre burkinabèse. Et c'est vrai que le fait d'avoir le nom Sankara, le fait d'avoir Odile, le fait d'imaginer Thomas, le grand Thomas, le Che Guevara africain, ça nous a donné beaucoup de force. Et Odile, c'était un peu la marraine du tournage. Avec son charisme, elle nous a beaucoup porté.
Et je rappelle que l'UNESCO classe l'un des lieux qu'on voit dans le film au patrimoine mondial comme haut lieu du marronnage. Ni chaîne ni maître, le premier film de Simon Mouteira et qui sort donc demain dans les salles françaises, Outre-mer, Île Maurice et le 8 novembre en Afrique francophone. Merci d'être passé dans les locaux de TV5 Monde.
Après Haïti, Montréal, Martinique et le monde créole, je vous invite, madame, monsieur, à faire un plongeon dans les coulisses de la 28e édition du Festival Grand Public Ciné Franco, du 7 au 16 novembre, au Cinéma Carlton, Métro Collège. Ciné Franco s'articule autour de deux festivals, le Festival Jeunesse, destiné aux élèves et à leurs professeurs, et le Festival Grand Public pour les francophones, francophiles et cinéphiles allophones. Ciné Franco, c'est bien plus que tout ça. Et oui, tout au long de l'année, Ciné Franco parraine, collabore avec plusieurs organismes locaux et projette des films de divers genres et origines. Et cette année, le thème choisi, les facettes de l'humanité. Comme d'habitude, sa fondatrice, Marceline, nous promet une programmation très diversifiée en provenance de France, de Suisse, de Belgique, du Québec, de l'Ontario. Et alors, les îles de l'océan Indien, les îles créoles, les Antilles. Non, je ne sais pas, on ne va plus poser la question. Alors suivez-nous, madame, monsieur, tout au long du mois d'octobre. Suivez Ciné Franco sur cinéfranco.com et popourichaud.com. Et là, nous avons le plaisir d'accueillir la diva, 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 la diva. On va lui mettre dans le monde créole. Est-ce qu'elle sait qu'à danser? Hop, hop, hop. Sautez, sautez. Bon mois du créole. Allez, où que vous soyez. Sautez, sautez.
Tony! Salabim, c'est la chère.
Oui, Louis Poul, oui, depuis toi du chocolat, t'es pas gagné, c'est Kounia qui est posé.
Tell me, 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 t
the hope. Can't you see I'm empty now? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellar, kiss me to the home. Yeah, it's my head in love. I can't do no more. I'm going to
chaque jeune roule tété yo ra l'école à Tibonda so
yeah. to Jumi Tineri. But you can't make you like Berry.
What up, what up? You send me a good like combo.
Tony!
I think you find what's up, what's up?
Oh!
I want it back. Your body never what's up. The captain now find what's up. The captain you go up, what's up?
Oh, I want it back.
Everything I said,
Choka 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 cho